Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval. Oh non, mais c'est pas vrai. Ça va être l'émission extraordinairement animée.
Mais il fait chaud, on en profite. Hein.
Voilà. Alors, donc, le messager du cheval avec de nouvelles chroniques dédiées à celui qui dit-on est la plus belle conquête de l'homme, le
cheval.
Ah, formidable, formidable. Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie avec aujourd'hui autour de la table. Alors, Vanessa Sandoval.
Bonjour.
Karine.
Bonjour.
Et Jean-Claude Adelin.
Bonjour.
Voilà, oulala, ce qu'ils sont sérieux.
T'aurais pu la faire un peu plus sensuelle hein, quand même.
Alors, les trois amis en route pour une chevauchée radiophonique de 25 minutes.
Allez, c'est parti.
Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par prendre le cheval au mot. Et aujourd'hui, on va prendre le mot estafilade. C'est l'un des charmes de la randonnée à cheval. Par exemple, une branche d'arbre que l'on n'a pas su éviter, qui nous marque la joue d'un joli petit trait rouge. Ça arrive. Alors, estafilade n'a pas toujours eu ce sens plutôt sympathique. Il nous vient de l'italien staffa, qui veut dire étrier, et de son dérivé staffile, l'étrivière. Alors jusque-là, rien de bien méchant, où cela se gâte, comme on peut le trouver dans l'œuvre de Rabelais. Une estafilade signifiait, dans le temps, également les coups de fouet ou d'étrivière pour punir un valet. Alors là, vraiment, c'est moins drôle. Et on parlait alors de donner les étrivières, une expression reprise par Théophile Gautier dans son livre Le Capitaine Fracasse, où effectivement le jeune noble menace de donner les étrivières à un valet qu'il n'aime pas beaucoup. Voilà, tout simplement. Voilà, donner les étriviers. Alors, on peut imaginer un petit peu ce que ça faisait, parce que c'est quand même une sacrée courroie, et ça ne devait pas faire du bien. Alors...
J'y pensais, hein, Karine, mais tu l'as dit. Tu as osé le dire.
Non, je pense que, Karine, tu t'amuserais pas, je peux te le dire.
Détrompe-toi, Michel.
Non, mais...
Alors, sous le règne de Louis XVI, très précisément en 1778, un traité d'équitation est édité, rédigé par l'un des plus fameux écuyers de l'époque, Monsieur de Montfaucon de Rogle, c'est son nom. Un traité qu'il avait écrit plusieurs années plus tôt, approximativement vers le milieu du XVIIIe siècle. Hein, et ce traité était dédié au fils du roi Louis XV, donc on appelait le dauphin Louis, et qui, du reste, le dauphin n'a jamais régné, mais ses trois fils ont régné, l'un, c'était Louis XVI, Louis XVIII et Charles le 10. Alors, en 1738, Montfaucon de Rogle entre comme page au service de Louis XV. Effectivement, beaucoup de rejetons de familles très nobles rentraient comme page au service du roi. Et ses qualités d'écuyer attirent l'attention du roi qui le choisit et le charge en 1750 de l'éducation équestre de son fils aîné, le dauphin donc. Son ascension est alors rapide. 7 ans après sa nomination, il est nommé cornette de cavalerie. Alors qu'est-ce que c'était qu'une cornette? En fait, c'était un officier de cavalerie qui était chargé de transmettre aux troupes les différents mouvements que décidaient les généraux. Et en fait, la cornette, c'était des petits fanions. Alors, ils agitaient des petits fanions de différentes couleurs pour dire, bon, avancez, reculez, tirez-vous, c'est foutu. Enfin, bon, plein de choses intéressantes dans une armée. Alors, 2 ans plus tard, Montfaucon de Rogle entre dans la compagnie des chevaux légers, donc c'était la cavalerie légère, effectivement, de la garde ordinaire du roi et devient le directeur du manège de l'équitation de cavalerie, de l'école de cavalerie qui dépendait de cette compagnie. Donc, il en devient le directeur. Alors cette période en France est intéressante, en France et en Europe, parce que elle est celle d'une intense émulation philosophique, scientifique, artistique. Effectivement, entre 1747 et 1766, Diderot et d'Alembert, entourés de toutes les sommités réputées de l'Europe, comme Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc., etc., rédigent un véritable monument de la pensée qu'ils appelleront le Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, donc ça embrasse tout, et qu'on connaît plus simplement sous le terme de l'encyclopédie. Avec un grand E majuscule. Une période où le rationalisme triomphe des vieux dogmes et des anciennes croyances qui restaient encore très présentes dans la façon dont l'ensemble des gens se représentaient le monde et tâchaient d'en expliquer les mystères. Et l'équitation, elle aussi ne fera pas exception et sera emportée dans ce vaste mouvement intellectuel qui, en fait, fonde la modernité. On peut dire que en Europe, la modernité, ce sont les Lumières, c'est l'encyclopédie. Alors, empirique depuis ses origines, l'équitation voudra se reconstruire sur des bases dictées par la raison. C'est vrai qu'avant, quand on lit les traités d'équitation précédents, on s'aperçoit que c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que l'écuyer écrit ce qui marche, mais a beaucoup de mal à dire pourquoi ça marche. C'est l'empirisme, absolument l'empirisme. Alors que là, Montfaucon de Rogue, lui, essaye de trouver des bonnes raisons qui sont à la fois des raisons mécaniques, mais également des raisons psychologiques.
C'est lui qui a appris au dauphin monter à cheval.
Oui.
Donc c'est Montfaucon qui a appris au dauphin
monter à cheval. Il était chargé de cela, oui.
Vous aimez les animaux à l'époque.
Ah oui, et puis de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Hein. Les voitures d'occasion se vendaient mal et finalement, ils faisaient plutôt des choses. Tu vois. Alors, le traité d'équitation de Montfaucon de Rogle se divise en deux parties. La première partie décrit la position que le cavalier doit avoir en selle et les différents moyens qu'il a à sa disposition donc pour mener un cheval dont l'éducation est déjà bien confirmée. Donc, en d'autres termes, un cheval qui a compris les différents aides du cavalier et qui sait obéir. Donc, bien se tenir à cheval, bien se tenir en selle et surtout ne pas gêner le cheval. Et la seconde partie, elle passe en revue les différentes techniques pour donner au cheval cette connaissance des aides, ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes d'accord, les trois devant moi, ce qu'on appellerait aujourd'hui son éducation, tout simplement, qui est peut-être plus intéressant qu'un simple dressage.
Et l'éducation du cavalier aussi.
Et l'éducation du cavalier. Mais alors voilà, ça c'est tout à fait ça, un cavalier mal dressé, un cheval mal éduqué.
Exactement.
Et oui, un cavalier mal habile, généralement, fait un cheval qui est aussi mal habile.
Et c'est très juste d'ailleurs ce que tu dis, parce que Lucien Grus, il dit un petit peu la même chose, on éduque un enfant et on dresse un cheval. Et là, tu viens de dire qu'il fallait dresser le cavalier pour éduquer le cheval, je trouve ça très joli.
On va poursuivre maintenant avec une pause musicale avec les Doors, Break On Through to the Other Side, spéciale dédicace pour Jean-Claude Adelin.
Merci beaucoup.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Oh,
deuxième partie du traité de Montfaucon de Rogle comprend également tout ce qu'un homme de cheval doit connaître. L'équipement du cheval, les différents types de mors et d'éperons et leurs effets respectifs, l'entretien des chevaux aussi et la façon de les nourrir. Également les différentes ferrures utilisées selon les particularités physiques et dynamiques de chaque animal et s'assurer qu'elles soient compatibles avec les exigences du service qui lui est demandé. Donc c'est vraiment quelque chose de très précis. Il est à noter que Montfaucon de Rogle fait de façon explicite la différence entre l'homme de cheval, et ça alors dans le traité il le dit souvent, donc il fait la différence entre l'homme de cheval, qui est celui qui maîtrise tous les aspects de la science équestre, tous, et le cavalier que l'auteur considère comme un simple utilisateur, trop souvent ignoré de l'animal.
Ah, je le mets en mémoire encore aujourd'hui, hein, la différence entre un cavalier et un homme de cheval.
Oui.
Ah oui, c'est très important.
Absolument, oui. Absolument. On peut être cavalier sans être homme
de cheval.
Et il
y a grande confusion encore aujourd'hui.
Et il y a une grande confusion. Oui. Absolument. Alors un chapitre du traité est également consacré au haras, avec le souci de convaincre le lecteur de bien comprendre l'importance qu'il y a d'améliorer les qualités des chevaux. Voilà. En résumé, Montfaucon de Rogle se propose de réaffirmer avec force, et là je le cite, alors il dit « L'utilité des chevaux est trop généralement reconnue pour que j'entreprenne de faire ici leur éloge. L'usage continuel que l'on en fait prouve assez le besoin que nous en avons. Cependant, loin de profiter de tous les avantages qu'on peut en retirer, on se prive en abusant de leur qualité d'une partie des services qu'ils pourraient rendre. Pourquoi ne pas chercher au contraire à augmenter ces qualités? Si la nature les donne, l'art peut en les développant, les perfectionner. Mais pour cela, il faudrait une méthode sûre et des préceptes clairs.
Un homme de cheval et un artiste en même temps. Hein.
Un homme de cheval et un artiste. Et une très belle langue.
En plus.
Une très belle langue. Absolument. Alors, l'éthologie. Alors, l'étymologie du mot, déjà forgée au début du XVIIe siècle, c'est la science qui décrit les mœurs ou le caractère des gens. Des mœurs, des gens. Et la définition évolue au fil du temps pour prendre vers la fin du XVIIIe siècle avec le naturaliste français Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, hein, le sens exclusif de comportement des espèces animales dans leur métier, dans leur milieu naturel. Donc c'est plus les mœurs et le caractère des gens, mais des espèces animales. Alors une définition popularisée dès le milieu du siècle dernier par le psychologue autrichien Konrad Lorenz, hein, je crois que tu le connais bien, enfin à travers ses écrits.
Ouais, un petit peu quand même. Oui,
voilà. Ces études qu'il a menées pour comprendre les différents signaux que les animaux échangent entre eux pour communiquer. C'est ainsi, je crois, que ce qu'on appelle un peu la définition de l'équitation éthologique. Alors.
Oui et non. C'est vrai que l'équitation éthologique est basée sur une grande partie de l'observation, mais aussi de l'action. Parce que s'il n'y a que de l'observation, il n'y a pas d'équitation. Il y a juste une étude. À partir du moment où il y a l'activité équestre, il y a le rapport qui est concret avec un cheval, à ce moment-là, je ne sais pas, on pourrait peut-être dire de l'éthologie appliquée, par exemple, voilà, qui est un terme un petit peu conventionnel, comme ça, qu'on peut dire. Et qu'est-ce que tu veux savoir sur l'éthologie ?
Alors, ça aurait été plutôt une question que... Mais tu as peut-être, Vanessa, quelque chose à dire, parce que je crois aussi que tu pratiques
J'écoute, je bois vos paroles.
Tu les bois, attention.
L'éthologie, non, je trouve que l'éthologie, c'est fabuleux, c'est une grande douceur pour les chevaux.
C'est une grande douceur pour les chevaux ?
Tout à fait.
Oui. D'accord.
Ouais, mais déjà, on peut relever là-dessus un petit point sur le fait de la douceur qui est quand même qui fait partie aussi de cette convention, de dire que l'équitation éthologique, c'est l'équitation en douceur.
Tout à fait.
Ouais. Ce qui est pas tout à fait juste, parce que ce qui est juste en soi, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que en fait, ce qu'on dit toujours, le précepte en éthologie, c'est aussi doux que possible, mais aussi ferme que nécessaire. C'est-à-dire que la douceur ne fait pas de l'éducation.
Mais on va jamais jusqu'à la violence quand même. Hein.
Jusqu'à la fermeté. La différence entre fermeté et violence, c'est que dans la violence, il peut y avoir une action qui va être amplifiée et multipliée en fonction de, on va dire, de la négativité que peut amener le cheval par rapport à une situation. Si on désire que le cheval fasse une action et qu'il en fait une autre parce que c'est sa nature, puisqu'il a un réflexe d'opposition, le cheval, à la base. Donc forcément, au départ, il va pas être d'accord avec ce qu'on lui demande, mais à partir du moment où la fermeté équivaut au refus, à ce moment-là, il y a ce qu'on peut appeler un juste milieu. Donc
on
une
peut
justesse.
Être ferme en douceur. Voilà.
Non, on pas peut pas être ferme ouais. en douceur parce que si tu es doux, tu peux pas être ferme. La fermeté a une certaine exigence. Elle a une certaine efficacité, la fermeté. Par contre, la différence entre violence aussi, donc il y a non seulement être juste, donc de pas déborder par rapport au refus du cheval, et d'être à la même intensité que la négativité du cheval, mais aussi être sans sentiment, ne pas avoir de sentiment. La violence vient quand il y a un sentiment d'agressivité, d'énervement, de rancœur. Des choses comme ça que tout cavalier connaît d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas un cavalier sur la planète qui n'a jamais été énervé par son cheval.
Oui, c'est
donc voilà. Et ou alors c'est des Playmobil. Hein. Mais sinon c'est impossible parce que le cheval, il a de par sa nature, qui est effectivement d'un réflexe d'opposition, il est très énervant pour l'humain, qui l'humain est le plus grand prédateur puisque lui l'objectif il le veut tout de suite. Le cheval, il ne te donne jamais un objectif tout de suite. Il faut lui parler poliment. Gentiment, lui faire comprendre. Et pour être compris, il faut être efficace. Et pour être efficace, parfois, il faut effectivement pallier au réflexe d'opposition naturelle du cheval. Et de là, nécessite la fermeté qui n'est absolument pas de la violence.
Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus, comment dirais-je, une espèce de perversion de l'équitation éthologique avec une sorte d'anthropomorphisme? C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire bon, comment dirais-je, on sait très bien que l'animal, n'importe quel animal, a des signes comportementaux que l'on comprend, comme la colère, la confiance, etc., etc. Mais on est incapable de savoir comment l'animal perçoit lui-même ses propres comportements, c'est-à-dire s'il a la faculté ou non de les analyser. Et là, c'est vrai parce que est-ce que l'animal a la possibilité, ce que font les humains, c'est-à-dire de symboliser leurs actes, et donc c'est en symbolisant les actes qu'on construit une pensée autonome. Et à partir de là, donc je reviens à l'anthropomorphie, c'est-à-dire il m'a souri, donc etc. Bon, mais oui, mais c'est un cheval, c'est pas mon copain du second.
Enfin, cheval sourit pas, hein. Ou alors faut me dire où
non,
on
les trouve.
Non,
mais les animaux, hein. En règle générale, on comprend très bien un chat qui est en colère, qui est confiant, un animal, etc. On le comprend très bien. Bon, ceci dit, est-ce que dans sa tête d'animal, il comprend sa colère ou il comprend sinon que comme de simples comportements générés par un certain nombre de stimuli extérieurs qui, bon, bah c'est tout. Quand il voit l'autobus arriver, il a tendance à prendre ses jambes à son cou. Ou à se tirer, quoi, ou à grimper dans un arbre.
Oui. La différence est très difficile à définir parce que pour deux choses. Un, l'animal est ce qu'il est, c'est-à-dire un animal. Un humain, il est ce qu'il est, c'est-à-dire un humain. Mais, ça a l'air simple comme définition, mais l'humain, il a un égo. Non. Tout ce que l'humain pense, tout ce que l'humain fait, surtout par rapport à un animal qui n'a pas d'égo, est totalement égocentrique. Mmh. Et l'anthropomorphisme, il vient de là, c'est-à-dire que l'homme, il ne pense qu'à lui, pour lui, avec lui et en lui.
Donc une équitation éthologique, mais en faisant attention de ne pas tomber dans le piège de l'anthropomorphisme.
Ce qui est très très difficile, oui.
Alors j'ai une question par rapport à l'éthologie, justement. Est-ce que l'éthologie, c'est fait pour que le cheval s'adapte à nous comprenne, ou que nous, on comprenne le cheval, on parle cheval, ou que le cheval parle humain?
Très bonne question, c'est la deuxième réponse.
C'est un échange.
Non, c'est la deuxième. C'est le cheval, il n'a jamais rien demandé à l'homme. Le cheval, par définition, il est dans un pré, il a juste envie d'être avec ses copains, respirer l'air du temps, regarder les petits oiseaux et brouter. Il fait que ça toute la journée, et lui, l'homme, il en a rien à foutre. Ça ne l'intéresse pas. Ça va l'intéresser à partir du moment où on va rentrer en communication. Pour rentrer en communication avec un cheval, on n'a qu'une seule solution, c'est le langage du cheval. Le cheval ne connaît pas d'autre langage que celui du cheval. Et pour preuve, tous les chevaux de la planète, depuis la nuit des temps, ont tous le même langage. Aujourd'hui, on va dresser un cheval au Chili, au Bangladesh, au Turkménistan, c'est toujours le même rapport. On va l'éduquer de la même façon. C'est-à-dire qu'on va agir comme lui agit dans le troupeau, en respectant les règles de la hiérarchie dans le troupeau, et leur fonctionnement et leur dialogue à eux. Mais pas à nous. Après, nous, on peut adapter des mots. On peut adapter des situations. On peut adapter des signes que lui va comprendre pour la simple et bonne raison qu'on est devenu quelque part, entre guillemets, dominant. On est devenu chef de troupeau, parce qu'avec un cheval, on fait troupeau, tous les deux. Nous sommes un troupeau de deux. Moi et mon cheval, nous sommes un troupeau de deux. Donc à partir de ce moment-là, il y a le rapport naturel du cheval dans le troupeau, c'est-à-dire de prendre sa place. Soit elle est la place du dominant, du référent, du leader, soit elle est la place du dominé, de celui qui suit. Mais il doit avoir sa place.
Tout à fait. Tout à fait.
Et d'où l'intérêt, donc, effectivement, de bien comprendre le langage, les réactions, la psychologie d'un animal, et en l'occurrence d'un cheval, pour, en quelque sorte, se calquer et pouvoir utiliser les stimuli que le cheval comprend et auxquels il réagit.
Moi, j'entends par échange, en fait, le fait de prendre la peine, dans l'éthologie quand même, de prendre la peine d'étudier le cheval, de le comprendre.
Ah,
voilà,
ça, hein, tout
c'est
à fait.
Donc c'est pour ça, c'est pour ça que j'appelle ça un échange, quoi. Par rapport à, voilà, on prend le temps de le comprendre, de et le retour n'est pas le même, hein. Quand on prend le temps et quand on bourrine pour se faire comprendre. Quoi.
Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Mais quand même, il faut bien aussi définir, tout à fait, je suis d'accord. Il faut quand même bien définir le fait que le cheval, l'homme ne l'intéresse pas. Ça fait mal au cœur, ok, ça froisse les égos. On dit toujours, mon cheval, il m'aime, mon cheval me dit bonjour. Non.
D'où le problème, effectivement, de gens qui ont, avec un cheval, où ils ont l'impression qu'ils sont très très amis, et un jour, le cheval, parce que quelque chose a surpris n'importe quoi, est capable
de le renverser,
le mordre, etc.
Bien sûr. Voilà. Et si ton cheval, avec qui que tu aimes, avec qui tu as des grandes relations fortes, puissantes, avec des émotions qui sont au-delà de la vie du quotidien, tu le mets avec d'autres chevaux dans un troupeau, il paraît avec les autres, il reste pas avec toi.
Hein. Ah oui.
S'il reste avec toi, c'est parce que tu l'obliges au fait qu'il reste avec toi. Ouais. Et tu l'obliges de parce que tu prends ta place, entre guillemets, de dominant. Dominant, leader ou chef du troupeau.
Alors, on va passer au dicton de la semaine et il est apache. C'était des grands cavaliers, les apaches aussi. Alors, ce dicton dit « Avec un cheval, il n'y a pas de victoire ou de défaite. Il n'y a que de la persévérance. » Donc, voilà, allons-y. On a le temps pour nous et c'est ce qu'il faut faire.
Nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, surtout, n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il y a aussi des grands comiques hein, dans l'émission. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche-de-Rouergue. J'ai changé de ville. 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr, un grand bravo à nos chevaux.
Ciao, ciao.